Il est 6h du mat et on se retrouve aujourd'hui pour une mini-série en collaboration avec Kobelco, le fabricant japonais de pelles à chenilles à la couleur bleue iconique. Je suis Nicolas Charton, communicant spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics, et durant 3 semaines, on en apprendra plus au sujet de cette marque aux caractéristiques singulières. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de cette belle série. Bonjour à tous, il est 6h du bat et on se retrouve aujourd'hui dans le dernier épisode de cette série consacrée à l'entreprise Kobelco. Je suis toujours avec Roland Dagnon, directeur marketing commercial pour le marché francophone de Kobelco. Et dans ce dernier épisode, on va se projeter un peu, on va parler aussi des enjeux du secteur, on va voir comment on fait tout ce qui est la partie approvisionnement, comment on pense les machines pour les chantiers de demain, comment on s'adapte aussi aux réalités du secteur qui sont à la fois économique et environnementale. Pour commencer, déjà, moi, il y avait une question que j'avais envie de te poser, Roland, c'est que on a beaucoup axé cette série sur le fait que Kobelco était une marque japonaise, un savoir-faire japonais, mais qui a un gros besoin et un gros marché européen et notamment francophone sur lequel tu te positionnes. Il y a une particularité, c'est que tu as dit que Kobelco ne vendait pas en direct, et ça c'est un gros sujet aussi pour l'approvisionnement, pour vendre différemment. C'est quoi le process, comment on arrive à approvisionner le marché francophone, et c'est quoi votre réseau du coup de vente qui n'est plus un réseau direct?
Comme on l'a dit dans les épisodes précédents, donc on est 100% fabriqué au Japon, et donc on a la société Kobelco Europe qui est basée à côté d'Amsterdam, qui est une société d'importation. Donc les machines prennent le bateau ou en conteneur jusqu'à 8 tonnes, ou autrement elles montent en direct dans le bateau pour être déchargées sur le port d'Amsterdam. Et à partir de cette plateforme logistique, en fin de compte, on distribue ça directement vers nos concessionnaires. Donc sur le réseau français, on a 18 concessionnaires et un concessionnaire sur la Suisse romande. Et donc ils achètent leurs machines, donc ils sont importateurs, ils achètent leurs machines directement chez Kobelco Europe et les font transporter directement dans leur concession. Ensuite, ces concessionnaires-là ont un territoire qui est bien défini au niveau des départements où ils ont le droit de vente. Et en complément de l'approvisionnement de ces machines, ils s'approvisionnent en pièces détachées, en pièces de rechange, dans notre magasin central qui est à Amsterdam. Donc on assure la logistique complète de l'approvisionnement des machines à l'approvisionnement des pièces de rechange auprès du réseau de distribution. Et là, on va construire donc en 2024 un nouveau siège à côté d'Amsterdam pour regrouper toutes nos activités, puisque en 10 ans, les besoins ont grandi et nos magasins pièces commencent à être un peu à l'étroit. Donc, on va faire un bâtiment tout neuf pour continuer le développement. Et l'Europe, pour Kobelco, est un gros continent qui pèse de plus en plus lourd et un beau marché.
Ouais.
Donc, le soutien de nos Japonais.
C'est clair, c'est donc gros focus qui va être mis, un bel écrin qui va être apporté aussi au marché européen, au marché de la pelle à chenilles pour Kobelco en Europe. Et ce réseau du coup de concessionnaires, il est hyper important et il est singulier, c'est-à-dire que comme tu dis, vous avez 18 concessionnaires qui revendent donc du coup sur tout le territoire francophone européen de la machine Kobelco et de la pièce détachée. Et donc ça, c'est un peu toi, ta fonction, c'est d'aller entretenir ce réseau et faire en sorte de maintenir ce lien entre le Japon et l'Europe via ce réseau de concessionnaires au final.
Effectivement, voilà, j'ai un rôle aussi d'animateur au sein du réseau, référent, on va dire, au niveau des caractéristiques produits, accompagner les concessionnaires sur tous les projets spécifiques, démolition, pelle de carrière, démantèlement auto, des sujets un peu moins travaillés au quotidien. Donc j'apporte vraiment mon soutien auprès du réseau en étant très présent avec eux chez les clients, chez les grands comptes, chez les loueurs, voilà, tout le marché que nos concessionnaires adressent en direct.
Il y a cette notion de proximité aussi, de toujours maintenir un lien avec le terrain, aussi pour faire évoluer les produits, j'imagine, puisque ça, c'est des remontées que tu peux faire, toi, depuis le terrain, donc au siège en Europe, puis après, qui vont aussi au Japon. Après, les bureaux d'études font leur boulot aussi, mais être proche de ces opérateurs, de ces concessionnaires, ça permet aussi de garder toujours le lien avec le terrain, alors que, comme on l'a dit, entreprise quand même fondamentalement japonaise, avec du coup cette historique de la sidérurgie, cette historique de l'acier Kobelco qui avait été fait à Kobe. Mais il y a cette volonté, du coup, en Europe, d'avoir cette proximité, de maintenir tout ça dans le bon sens. C'est aussi pour répondre aux enjeux un peu futurs du secteur, parce qu'il y a des questions qui se posent sur le secteur, sur la partie machine, sur la durée de vie des machines. Ça, c'est un gros enjeu, puisque bah, économiquement, une machine, c'est quand même un investissement. Il faut qu'elle puisse être rentabilisée. Les durées de vie des machines Kobelco, c'est quoi les évolutions qui ont été faites et c'est quoi la durée de vie un peu type d'une machine Kobelco de ton point de vue, Roland?
C'est vrai qu'on nous demande souvent pourquoi les pelles japonaises ou les pelles Kobelco durent plus longtemps que les autres. Bah, la qualité légendaire japonaise, ce n'est pas un mythe, c'est ancré dans l'ADN de notre bureau d'études et de nos usines, en fait. Ça part eh bien, de choix de composants haut de gamme. Et ensuite, eh bien, il nous appartient de faire un assemblage de grande qualité, sans faille, pour justement assurer une grande durée de vie. Donc, nous, on a deux usines au Japon. Si je prends sur l'usine d'Hiroshima, qui est l'usine des grosses pelles, je peux prendre deux exemples assez parlants. C'est une usine sous pression positive pour exclure les entrées de poussière externes au niveau pollution de l'air. Toutes les entrées de l'usine ont un sol collant pour que les chariots élévateurs n'apportent aucune poussière de l'extérieur. Et à l'intérieur, en fin de compte, tout l'air est brassé et filtré en permanence pour s'assurer, en fin de compte, qu'on ait une propreté clinique au niveau de l'usine. Et le deuxième exemple parlant, c'est du côté de l'hydraulique des machines. À la fin de la fabrication, la pelle elle est mise sous dialyse lors de sa mise en route pour filtrer en externe sur un très gros filtre extrêmement fin et retenir toutes les particules qui pourraient détériorer prématurément les composants hydrauliques. Donc on est ainsi certain de livrer une pelle testée et approuvée pour une grande durabilité en fait. Donc ça, c'est ce qui permet de s'assurer, en fin de compte, d'une grande qualité de fabrication avec une vision de durée de vie de 15 000 heures des pelles gamme lourde, justement, pour, voilà, le but aujourd'hui, dans l'époque que l'on vit, c'est pas de faire du matériel jetable, c'est surtout de continuer à construire du matériel durable. Donc, c'est vraiment le focus de Kobelco et dans tous les développements que l'on fait, c'est toujours l'idée de base, c'est toujours la qualité sans compromis, quoi.
Ouais, parce que bah, nous, ça c'est encore un parallèle qu'on fait sur l'épisode précédent sur la partie produit, mais faire du gros tonnage et maintenir autant d'heures de durée de vie, c'est quand même assez fantastique de pouvoir faire ça, parce que plus la machine est lourde, plus du coup elle consomme, plus elle est mise à contribution sur le chantier, et donc du coup on pourrait se dire bah, une machine de gros tonnage ne peut pas durer 15 000 heures, tu vois, c'est des choses qui peuvent se poser comme question, et au final, par la conception, par l'idée de ce process, de cette qualité japonaise, vous arrivez à maintenir des durées de vie assez longues, et 15 000 heures, ben, c'est quand même assez... 15 000 heures, c'est énorme quoi, sur la partie machine.
C'est énorme, mais c'est sur un bien industriel, sur un bien professionnel, c'est normal de se projeter comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus gaspiller. À l'époque actuelle, on ne peut plus gaspiller. Ça coûte fabriquer de l'acier, enfin, toutes ces parties manufacturées coûtent de l'énergie, et on ne peut plus se permettre de jeter les machines. Donc aujourd'hui, quand on voit que certains de nos confrères vont vers des fabrications plutôt plus légères et moins durables, on va un peu à contresens de la démarche générale de la société. Et donc les Japonais là-dessus l'ont compris depuis longtemps et ne feront pas de compromis. Aujourd'hui, on reste vraiment focus dans ce sens-là, quoi.
Ouais. Ensuite, en termes d'enjeux aussi sur la partie, bah, comme tu dis, du monde actuel, va y avoir aussi cette partie pollution et partie consommation aussi carbone. On voit beaucoup de pelles électriques, de pelles peut-être hybrides ou de modèles différents arriver sur le marché. Est-ce que Kobelco va aussi faire ce choix et fait déjà ce choix de faire de la pelle électrique, de la pelle pour peut-être différents usages aussi urbains?
En fait, Kobelco a présenté sa première pelle hybride en 2006 à Intermat à Paris, donc ça date un peu quand même. Hein. C'était une 9 tonnes à l'époque, mais le marché n'était pas conscient des enjeux, de la sobriété énergétique à cette époque-là. Ouais. Kobelco a continué. En 2012, ils ont sorti une 22 tonnes hybride qui a été lancée en Japon. Et en 2016, la version avec batterie lithium-ion a été lancée en Europe. Et donc, il y a eu des 21 tonnes, donc des 210 hybrides, qui ont été vendus en Europe et en France. Donc, Kobelco a toujours étudié ces solutions avec attention. Mais néanmoins, en parallèle, en fin de compte, Kobelco s'est aussi construit une image de pelle économe en carburant, car elles ont démontré les plus bas niveaux de consommation au travers de nombreux tests qui ont été réalisés en Europe. Donc, l'hybride, l'hydrogène ou l'électrique sont au cœur des débats actuels, mais je doute que la réponse soit dans une énergie plus que dans une autre, en fait. Donc, aujourd'hui, nos ingénieurs ont déjà sorti des versions électriques sur batterie et continuent à développer d'autres modèles. Donc, ça, c'est plutôt sur le segment des mini-pelles. Et ils travaillent également sur des versions hydrogène pour les pelles à partir de 15 tonnes. Mais le marché n'est pas encore prêt par manque de visibilité sur les approvisionnements en énergie et en fiscalité face à des coûts d'acquisition qui sont hors normes sur les premiers modèles qui sortent, en fait. Donc, aujourd'hui, on continue à se concentrer sur la sobriété des modèles actuels, en œuvrant sur l'efficacité des circuits hydrauliques, qui sont le cœur, en fin de compte, des machines. Et je dirais demain, que l'énergie soit électrique ou thermique, cette sobriété énergétique en hydraulique sera bénéfique de toute manière, peu importe l'énergie, en fait.
Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai aussi en tête, c'est que, comme tu dis, en fait, vous aviez lancé une machine hybride en 2006, mais déjà dans d'autres marchés, type automobile, les Japonais ont toujours été un peu en avance sur cette partie hybride, j'ai l'impression, et ont toujours pris ce sujet bien en amont, mais toujours avec un pragmatisme, comme tu viens de dire, c'est que même si il faut faire évoluer les modèles de machines dans des solutions plus durables avec une consommation de carburant diminuée ou d'autres énergies, y a pas de c'est pas blanc ou noir en fait. Il y a du pragmatisme dans le sens où on fait de l'hybride, on fait de la pelle électrique, mais on fait surtout en sorte d'équilibrer cet impact avec d'autres solutions, d'autres innovations directement depuis à la fois la production, à la fois la conception et autres. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même des innovations qui sont faites et qui sont faites dans le sens du coup d'un monde plus respectueux et moins gourmand aussi en termes d'énergie, clairement.
Oui, clairement. C'est vrai que la base d'une pelle, c'était un engin hydraulique. Et donc, nos bureaux d'études, en fin de compte, travaillent énormément, nous, sur l'optimisation des circuits hydrauliques des machines pour toujours baisser je dirais, le besoin en énergie. Et demain, peu importe qu'on y mette un moteur électrique, hydrogène ou thermique, la clé de la réussite de l'ensemble, c'est d'avoir un système hydraulique très efficient et peu énergivore, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on continue à travailler énormément là-dessus et ce sera bénéfique aux différents choix de technologies de moteurs qui seront faits, en fait. On continue à œuvrer sur ce segment-là, en fait.
Pour conclure un peu cette série sur Kobelco, c'est quoi les enjeux futurs, sur quels aspects le groupe va continuer à innover, à venir aussi bousculer le marché? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous présenter un peu en avant-première qu'on pourra aussi retrouver, du coup, comme on a pu l'évoquer, à Intermat, du coup, du 24 au 27 avril à Paris, Paris-Villepinte, où il y aura un gros focus de Kobelco mis sur des nouveautés. On va voir pas mal de choses. Et ce sera l'occasion aussi pour tous ceux qui auront écouté cette mini-série de découvrir un peu les sujets sur lesquels on a discuté avec toi, Roland. C'est quoi le futur de Kobelco?
Eh bien, le futur, on va dire déjà, un des gros projets pour nous qui est lancé sur l'Europe, c'est le nouveau bâtiment avec les nouvelles installations pour Kobelco, en fin de compte, et qui permettront de soutenir encore notre réseau de concessionnaires. Donc, nous, aujourd'hui, on a constitué un réseau de concessionnaires sur la France et la Suisse qui est solide, qui est efficace, qui a un vrai savoir-faire technique. Donc, ça, c'est quand même la base de la marque en Europe et en France. Et on va continuer donc à proposer aux clients des matériels fiables, durables, sobres. Ça reste, je dirais, l'ADN de ce qui a construit notre image depuis notre retour depuis 10 ans. Donc à Intermat, on présentera des nouvelles machines, toujours dans la gamme actuelle, toujours dans la gamme de ce qui se vend, mais pas de machines à nouvelle énergie pour l'instant, en fait. Donc
Ok.
ces machines-là sont au Japon, elles
D'accord.
sont développées, mais le choix de commercialiser ces machines-là n'a pas encore été fait, puisqu'aujourd'hui, pour être clair, ça ne se vend pas aujourd'hui. C'est proposé, c'est montré, mais on n'est pas encore arrivé au stade de l'automobile où ça s'est démocratisé de plus en plus. Aujourd'hui, ça ne se vend pas ou peu à des prix hors normes et le marché n'est pas là. Donc, on attend qu'il y ait encore des choix de fait au niveau des politiques et des approvisionnements pour déployer cette énergie, je dirais, qu'il y a à mettre autour du développement des nouvelles gammes. Donc, aujourd'hui, en fin de compte, on n'est pas sorti du besoin en énergie fossile, donc il ne faut pas baisser les bras sur l'optimisation des machines actuelles, des machines thermiques, parce qu'on en a encore pour quelques années. Donc, et ce sera de toute manière, tous nos développements que l'on fait, ils seront bénéfiques après aux nouvelles énergies. Mais aujourd'hui, on ne baisse pas les bras et on continue à développer des gammes traditionnelles, parce que le marché est là, c'est ce dont nos clients ont besoin et c'est ce qu'ils vont continuer encore à acheter demain. Oui,
très clair.
Un dernier point, on nous pose souvent la question sur l'élargissement de notre gamme. Alors, on restera sur le segment des pelles à chenilles, pour lequel on est vraiment un spécialiste, et 100% de notre énergie quotidienne, nous, elle est consacrée à ça, et on ne peut pas nous appuyer sur une autre gamme en cas d'échec. Donc, pour nous, l'échec n'est pas envisageable. On est le spécialiste de la pelle à chenilles, et on se doit de continuer à fournir un service et un bon matériel dans ce segment-là.
C'était des très belles perspectives, des très beaux mots pour conclure cette mini-série sur Kobelco. Ça m'a fait vraiment plaisir d'en discuter avec toi, Roland, puisque c'était une marque que j'avais trouvée vraiment singulière et qui avait du coup des choses à dire, des choses à raconter. J'espère que cette série vous a plu, que vous avez appris plusieurs choses et pas mal de choses sur cette marque japonaise, iconique par son bleu, iconique par son fonctionnement et par son réseau de distribution, et surtout avec un gros focus à venir et une petite mise en lumière de tout ça à Intermat. Ce sera un plaisir de te retrouver aussi là-bas, Roland, j'imagine, pour parler Kobelco. Merci à toi d'être venu ce matin pour parler de Kobelco, et puis on se retrouve très vite pour parler BTP.
Merci à tous et rendez-vous à Intermat.
J'espère que tu as appris plein de choses sur Kobelco, leader mondial des pelles hydrauliques. Ça me tenait à cœur d'en savoir plus sur cette marque au fonctionnement singulier. Et si cette série t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à la partager à tes collègues. On retrouvera Kobelco à Intermat du 24 au 27 avril. D'ailleurs, si tu veux ton badge gratuit pour Intermat, clique sur le lien en description et utilise le code INF02. À très vite pour réveiller de nouveau le BTP.